Vous écoutez On lit pour vous.
Les marches du bonheur, un texte de Marjorie Aunoz, PhD et maman en fauteuil roulant, paru dans la revue Paraquad, numéro 163, été 2024. Comme une ours, je me retrouve trop souvent et trop facilement dans un état d'hibernation involontaire tous les hivers. Je pourrais sortir plus, c'est un fait, mais... Il fait froid, mes gants deviennent mouillés, mes roues restent prises dans la neige et les conditions routières sont souvent très similaires à celles du jour de mon accident. J'aurai donc toujours beaucoup de raisons de rester chez moi. Par contre, lorsque les beaux jours reviennent, je n'ai qu'une hâte, aller explorer, participer, jouer dehors, et là, j'ai toutes les plus belles raisons de sortir de chez moi. Depuis mon accident, je suis restée assez active. Dans ma tête, je n'avais pas vraiment le choix parce que je voulais montrer à Thomas, mon fils, que le fauteuil roulant ne nous empêcherait pas de faire ce que nous voudrions faire. Le défi était de trouver les activités qui sont accessibles. Une de mes activités préférées avant mon accident était de prendre des marches. Et tant que l'on trouve des pistes aménagées, cela reste l'activité probablement la plus accessible en fauteuil roulant. Avec Thomas, nous marchons, roulons un peu partout. Nos endroits préférés sont tous les parcs sur l'île de Montréal ou la rive nord. Nous apprécions particulièrement la Chine et la Salle. Entre autres, la piste sur le bord de l'eau près du boulevard Saint-Joseph à la Chine. Là-bas, en partant de la 25e avenue et en se dirigeant vers l'ouest, on peut facilement faire une boucle de 5 km sans grande pente. On peut alors s'arrêter dans l'un des nombreux restaurants ou prendre un blizzard ou Dairy Queen près du phare. La péninsule du parc René-Lévesque est aussi tout près et constitue un chemin piétonnier ou cyclable très apprécié. Un autre endroit qui nous permet d'apprécier le fleuve est la piste qui est parallèle au boulevard La Salle. Cette piste est un peu plus difficile car le chemin a une inclinaison vers le fleuve. En roulant, nous devons constamment nous réajuster pour aller droit. Par jour de grand vent, la promenade devient soit un peu plus difficile, soit un peu plus facile. D'autres promenades que nous aimons faire sur l'île de Montréal incluent le Cap Saint-Jacques et le parc en Grignon. Sinon, il y a le parc Nature, Laval, ou le parc du Mont-Saint-Bruno, Rive-Sud, qui nous permettent d'être encore plus dans la nature. Mais pour ceci, je me promène avec ma chaise Trax, qui me permet d'aller dans les sentiers, dans la boue et de passer par-dessus de petits obstacles. Pour joindre l'utile à l'agréable, nous allons aussi souvent près du marché Atwater. Nous commençons par une promenade sur le bord du canal Lachine et terminons en faisant quelques courses. Le marché Atwater est vraiment bien adapté et me permet d'accéder à la majorité des commerces. Quand j'ai la motivation, la marche du canal nous amène jusqu'au Vieux-Montréal. Il y a quelques sections moins praticables qui requièrent quelques manœuvres un peu plus difficiles, mais c'est faisable. Le Vieux-Montréal est rempli d'opportunités. En restant proche des quais sur la promenade, les chemins sont assez plats et nous permettent d'accéder au musée de la Pointe-à-Calière et au Centre des sciences, tous les deux accessibles, à plusieurs food trucks et restaurants. Il y a aussi une nouvelle activité de réalité virtuelle qui est à voir, l'Horizon de Khéops. Ils ont une fonctionnalité, fauteuil roulant, qui nous permet de vivre une expérience virtuelle comme tout le monde. Pour aller sur les rues plus commerçantes du Vieux, par contre, cela requiert parfois de la créativité et souvent de bons bras. Quand il était plus jeune, Thomas m'encourageait lorsque je montais la place Jacques-Cartier. Il savait déjà que j'accepterais difficilement de me faire pousser. Il avait donc appris à rester derrière moi, juste au cas, tout en me rappelant que je suis forte et capable. Avec de jeunes enfants, le parc olympique est un des endroits les plus agréables. Il nous permet d'explorer le jardin botanique, qui a souvent des activités ou des expositions temporaires. Une année, le jardin faisait des expériences démontrant la manière dont la musique influençait les plantes. L'expérience était magique. À côté, il y a aussi le biodôme, qui nécessite d'être accompagné en raison des nombreuses pentes, ainsi que l'insectarium et le planétarium. Ces deux dernières activités sont parfaites à faire par temps de pluie, par exemple. Le stade Saputo, qui est juste à côté, nous permet de regarder un bon match de soccer de l'équipe du CF Montréal. La pente pour accéder à l'entrée est à pic, mais les places réservées aux fauteuils roulants sont bien situées. C'est là où nous avons pu voir Messi jouer le 11 mai dernier. Sinon, j'adore rouler dans mon quartier et regarder les jardins de mes voisins. Les fins de semaine, j'aime particulièrement rouler jusqu'à la rue Monkland, une rue très animée de mon quartier. Ça me prend plusieurs heures et je m'arrête pour prendre mon pain à la meunerie, mes brochettes au maître boucher et pour me récompenser, je monte jusqu'à la rue Giroir où je me prends un bubble tea ou une petite crème glacée. Il y a une bonne inclinaison qui me fait travailler mes muscles et qui fait du bien, surtout quand je rentre et me laisse rouler allègrement. Mais pour un vrai bon entraînement, je vous suggère les sentiers du Mont-Royal, surtout celui qui monte jusqu'à la Croix. Peu importe où vous choisirez d'aller vous promener cet été, le simple fait de sortir et d'être entouré de monde vous sera bénéfique. D'une promenade à une autre, vous verrez une amélioration de votre capacité à rouler de façon efficace, de vos conditions respiratoires et cardiovasculaires. Avec la persévérance, vous ressentirez un peu l'euphorie que l'on ressent après avoir fait un bon exercice. Des promenades régulières améliorent aussi notre humeur et notre sommeil. Pour plus d'informations sur les parcs nature accessibles au Québec, allez voir les sites de Kéroul et de la CEPAC. Et bonne marche! Kéroul, culture, loisirs et plein air, https://www.kéroul.qc.ca/section/22-culture-loisirs+et+plein.html. CEPAC, suggestion de sentier, https://annexe/quoi-fer/accessibilité-suggestion-sentier.dot. Informations sur des prêts d'équipement, https://www.cepac.com/annexe/quoi-fer/accessibilité-prêt-équipement.dot. C'était Les Marches du Bonheur, un texte de Marjorie Honnoz, PhD et maman en fauteuil roulant, paru dans la revue Paraquad numéro 163, été 2024.
La fracture verte, un dossier d'Antoine Paquette paru le 7 juillet 2026 dans la presse. D'un côté du boulevard de l'Acadie, le bitume brûle. De l'autre, la forêt urbaine s'épanouit. Lorsque Montréal suffoque, traverser cette artère revient à changer de climat. Alors que les résidents de Mont-Royal trouvent l'ombre sous des arbres centenaires, ceux de Parc Extension, le quartier voisin, étouffe en raison d'une mince canopée. En pleine température suffocante, la presse est allée constater à quel point il est difficile de vivre dans un îlot de chaleur. Premier texte. En quête de fraîcheur dans un îlot de chaleur. Daniela réconforte son poupon de 4 mois, tout juste réveillé de sa sieste dans une chambre où on ne retrouve ni ventilateur ni climatiseur. Le thermomètre posé sur la table de la cuisine explique les pleurs du bébé. Il fait 30 degrés Celsius. C'est traumatisant, souffle la maman, désemparée. Arrivée d'Afrique récemment, Daniela et son bébé vivent avec 2 colocataires dans un immeuble situé au cœur d'un îlot de chaleur. Leur appartement de 2 chambres à coucher est situé dans le quartier Villeray, à quelques kilomètres à peine du boulevard de l'Acadie. La presse a rencontré Daniela alors que la température ressentie à l'extérieur atteignait les 45. Avec la chaleur, c'est vraiment plus compliqué. Son sommeil est mauvais. Souvent, je me réveille pendant la nuit pour lui donner un bain froid, raconte la mère chef de famille monoparentale qui nous a demandé de modifier son nom car elle craint d'éventuelles représailles de la part de membres de sa famille restés au pays. Des bains froids, Daniela en donne aux poupons jusqu'à 5 par jour. Ça l'aide à se refroidir, mais surtout à arrêter de pleurer lorsqu'il fait chaud, dit-elle, le pommeau de douche à la main pour une nouvelle séance de rafraîchissement du bébé. Dans la cuisine, l'air est lourd. La porte du balcon est entrouverte et les rideaux oscillent à peine avec la faible brise. « Il n'est pas habitué à cette chaleur, » dit Daniela. « C'est pire qu'en Afrique. Ici, la chaleur est beaucoup plus intense. » Pas étonnant qu'elle remarque l'inconfort de son enfant. Les nourrissons sont spécialement sensibles à la chaleur. Chez l'adulte, la transpiration est le mécanisme de perte de chaleur principal. Chez les bébés, surtout à 4 mois, leur capacité à transpirer n'est pas complètement développée. Souvent, elle ne se développe qu'à partir de l'âge de 2 ans, explique Daniel Gagnon, chercheur sur l'impact de la chaleur sur la santé cardiovasculaire à l'Institut de cardiologie de Montréal. Le corps humain doit traverser beaucoup d'inconfort avant d'en arriver à un coup de chaleur, une perte de conscience ou même un arrêt cardiaque. Les cas graves ne sont que la pointe de l'iceberg, selon M. Gagnon. Avant de se rendre là, il y a eu beaucoup d'inconforts qui sont à la limite de la souffrance. Le premier véritable signal d'alarme survient lorsqu'on franchit le seuil des 39 degrés Celsius, où apparaissent les nausées et les étourdissements. Le véritable danger se situe au-delà de 40,5 degrés Celsius. À ce stade-là, il s'agit d'un coup de chaleur qui peut s'avérer mortel s'il n'est pas traité d'urgence, souligne le docteur Gagnon. Les gens, poursuit-il, peuvent être affectés au quotidien. Ils dorment mal, ils vont peut-être travailler en pleine chaleur et ça affecte leur performance. Puis, au fil des jours, ça finit par affecter leur santé mentale. Inégaux face au changement climatique. En période de canicule, l'indice de température est particulièrement élevé dans les quartiers Parc Extension, Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Saint-Michel et Villeray. Comme dans la plupart des villes, c'est dans ces secteurs densément peuplés, où on trouve peu de verdure et beaucoup de bitume, que la chaleur est plus difficile à supporter. Et ce sont aussi des quartiers défavorisés. Les changements climatiques sont vraiment des accélérateurs et des amplificateurs des inégalités sociales, souligne Alexia Hull, membre de la chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé, RIS, qui fait un doctorat en psychologie communautaire à l'UQAM. Le dôme de chaleur historique qui a fait 619 morts en Colombie-Britannique à l'été 2021 est un exemple de ces inégalités sociales. Les rapports du coroner notent un lien direct avec le nombre de décès dans les secteurs plus minéralisés qui se transformaient en bouilloires urbaines. Les gens sont presque 3 fois plus à risque de décéder à cause de la chaleur dans les quartiers beaucoup plus denses, moins verts, plus proches des grandes routes et plus loin des cours d'eau, estime Alexia Hull. L'ajout de 5 % de couverture arborée réduit de 10 % le risque de mortalité dans un rayon de 100 mètres en période de canicule, indique Mme Hull. Alexia Hull indique que 3 facteurs sont à prendre en considération pour mesurer ces inégalités lorsqu'on traverse une vague de chaleur. La sensibilité face aux maladies chroniques et à la santé mentale, l'exposition à la chaleur dans les quartiers défavorisés et la capacité d'adaptation du corps. De son côté, Daniela espère que la chaleur passe rapidement. Après la douche froide, son poupon de 4 mois a cessé de pleurer. Lorsque la température aura baissé, Daniela espère retrouver l'énergie pour se rendre à la bibliothèque de son quartier, qui a le grand avantage d'être climatisée. Vous écoutez « La fracture verte », un dossier d'Antoine Paquette paru le 7 juillet 2026 dans la presse. Deuxième texte. Les quartiers défavorisés victimes de racisme botanique. Un thermomètre, 2 quartiers. À l'occasion de la première vague de chaleur de la saison estivale, la presse a fait l'exercice, sans prétention scientifique, de mesurer la température ambiante d'un côté et de l'autre du boulevard de l'Acadie. Le contraste frappe. 3 degrés de différence sont suffisants pour ressentir l'effet suffocant de Parc Extension, véritable bouilloire de bitume. Alain Paquette n'est pas surpris de ces mesures. Le chercheur en forêt urbaine arpente régulièrement la métropole à l'aide d'un vélo muni de capteurs pour documenter l'évolution de ces îlots de chaleur. « C'est mon vélo high-tech », lance M. Paquette, professeur de biologie à l'UQAM. Sous la mince canopée du parc de l'Estre, dans Parc Extension, il explique pourquoi il recueille ces données thermiques. Cela permet de déterminer si un îlot de chaleur se résorbe ou s'il s'accentue au fil du temps. Son bolide tout-terrain est doté de 3 capteurs. Un laser mesure la température au sol, le deuxième calcule l'incidence de l'énergie qui vient du ciel et le dernier capte la température de l'air. C'est le capteur le plus important, celui qui mesure la température de l'air. Il mesure notre ressenti, ce qu'on vit maintenant et ce qui affecte notre santé, dit Alain Paquette. Un îlot de chaleur, dont Parc Extension est l'exemple le plus suffocant à Montréal, est un milieu minéralisé avec beaucoup de surfaces asphaltées. Ces surfaces accumulent l'énergie solaire durant la journée pour la rejeter sous forme de chaleur durant la nuit. En plus d'être entassées sur un territoire près de 5 fois plus petit que celui de Mont-Royal, les résidents de Parc Extension, pourtant plus nombreux de 8 000 habitants, subissent un déficit vert. Leur indice de canopée plafonne à 11,8% comparativement à 31,7% pour leurs voisins. Les plus récentes cartes officielles des îlots de chaleur à Montréal datent de 2019. Pour Alain Paquette, il est crucial d'actualiser ces données afin de comprendre comment le déficit de canopée, dans des secteurs déjà vulnérables, contribue à amplifier les inégalités sociales. On ne mesure pas l'efficacité des efforts qui sont faits sur les personnes qui sont les plus susceptibles de développer des maladies liées aux températures élevées, dit Alain Paquette. Racisme botanique. Des facteurs historiques expliquent pourquoi certains quartiers ont été si bien pourvus en arbres au détriment d'autres secteurs, explique M. Paquette. Il y a des raisons qui sont propres au bâti, à l'architecture et à la façon dont les quartiers sont conçus. Et il faut qu'on commence à revoir ça. Il y a aussi de la discrimination qui date d'époques antérieures, mais qui existe encore aujourd'hui, estime le professeur. Alain Paquette juge que ce racisme botanique est un problème de distribution des ressources vertes. C'est plus facile pour des populations mieux nanties, qui ont un plus grand accès aux politiques, de demander des arbres et de les recevoir, explique le professeur, qui est aussi chercheur au Centre d'études de la forêt, CEF. Les gens qui en ont le plus besoin, parfois, sont les personnes qui n'ont pas de voix, ou qui ne savent pas qu'ils ont une voix et qui ne demandent pas d'arbres, dit-il. Or, les arbres sont essentiels pour tempérer un quartier. Le rafraîchissement dû aux arbres, c'est un service écosystémique qui est rendu par des infrastructures vertes naturelles. Une bonne façon de réduire la chaleur, c'est en végétalisant, en déminéralisant le sol, soutient l'expert en forêt urbaine. On peut, par exemple, déminéraliser une cour de récréation scolaire en retirant l'asphalte et verdir en plantant quelques arbres. L'effort de canopée est évidemment important, mais ce ne sont pas juste les arbres. Même une pelouse, c'est déjà beaucoup mieux que l'asphalte ou le béton, affirme Alain Paquette. Le gouvernement ne reconnaît pas le fardeau de la chaleur, notamment chez les personnes vulnérables, selon Cyril Frazao, directeur santé et climat à l'Association pour la santé publique du Québec. Les populations les plus à risque et les familles démunies vivent trop souvent dans des quartiers où les logements sont inadéquats et privés de climatisation, déplore Cyril Frazao. Le code du bâtiment actuel est déficient. Il n'impose aucune norme pour envisager un refroidissement responsable. M. Frazao est membre de la Coalition québécoise pour un droit à la fraîcheur, une initiative visant à mieux protéger et prévenir la population face aux risques croissants liés à la chaleur. La coalition exhorte Québec à se doter d'une stratégie nationale de refroidissement pour mettre fin à la maladaptation des milieux de vie. Vers l'atteinte de son objectif de plantation. Selon le plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal, verdir est une priorité. Et la ville avance bien vers son objectif. En 2024, elle a planté 238 061 arbres sur son objectif d'un demi-million d'ici 2030. Cette progression réjouit l'administration d'Ensemble Montréal. On avance très bien. On travaille avec des partenaires comme la Sauverdi pour cibler à la fois les terrains institutionnels, privés et publics, explique Gabriel Rousseau-Bélanger, responsable de l'environnement, de la transition écologique et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces efforts ne sont toutefois pas suffisants, selon Alain Paquette. On dit qu'on veut augmenter la canopée d'un certain pourcentage, mais les motivations réelles, c'est diminuer l'incidence de maladies cardiovasculaires, augmenter le bien-être et réduire l'incidence d'autres maladies. En effet, même si la canopée totale de certains secteurs très touchés s'est améliorée, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel Parc Extension, elle est passée de 12 % à 17 % la superficie totale des îlots de chaleur diminue peu. Elle n'a régressé que de 0,4% depuis 2020, selon le plan climat de la ville. Avec la multiplication des canicules, Alain Paquette plaide pour repenser la ville et les mesures de verdissement. Après la vague de chaleur qui a déferlé sur Montréal au cours des derniers jours, on n'a plus le droit de dire que la chaleur intense est une exception, tranche le professeur. Ça va devenir la norme. C'était « La fracture verte », un dossier d'Antoine Paquette paru le 7 juillet 2026 dans La Presse.
Les croisières LGBTQ+, devront-elles revoir leur itinéraire ? Un texte de Yves Lafontaine, paru le 14 juillet 2026 dans Fugue. Le refus de la Turquie, puis de l'Égypte, d'accueillir la croisière d'Atlantis Events transportant près de 1900 voyageurs LGBTQ+, pourrait bien marquer un tournant pour l'industrie des voyages gays. Au-delà de l'incident diplomatique, cette décision soulève une question qui inquiète désormais les organisateurs. Sera-t-il encore possible de proposer des itinéraires dans certains pays où les droits LGBTQ+, sont remis en question ? Pour la première fois depuis la création d'Atlantis Events, il y a plus de 35 ans, un navire entier a été refoulé de deux pays en raison, selon son fondateur Rich Campbell, de l'identité même de ses passagers. Les autorités turques ont invoqué des valeurs morales, tandis que l'Égypte a refusé d'accorder les autorisations nécessaires à l'entrée du navire après la controverse turque. L'épisode dépasse largement le simple désagrément touristique. Les voyageurs ont certes vu leur itinéraire modifié, mais ce sont surtout les conséquences à long terme qui préoccupent les organisateurs de croisières LGBTQ+. Les ports d'escale se réservent toujours le droit d'accepter ou non un navire. Jusqu'à maintenant, cette possibilité demeurait essentiellement théorique pour les croisières gays. Des destinations devenues plus risquées. Depuis plus de 25 ans, Atlantis faisait pourtant escale régulièrement en Turquie, sans incident majeur. Les passagers visitaient les sites historiques, fréquentaient les commerces et injectaient des millions de dollars dans l'économie locale. Rich Campbell refuse d'ailleurs d'y voir une condamnation définitive de la Turquie, rappelant que le pays avait accueilli les croisières de l'entreprise à 13 reprises auparavant. Cette fois, toutefois, le contexte politique semble avoir changé. Des groupes conservateurs auraient exercé des pressions sur les autorités locales quelques jours avant le départ du navire, conduisant à l'annulation des escales prévues à Kouchadassi et Istanbul. L'Égypte, qui figurait pourtant au programme des deux dernières années, est devenue une victime collatérale de cette controverse. Selon Campbell, les autorités administratives nécessaires n'ont jamais été complétées, forçant le navire à rebrousser chemin au milieu de la nuit. Un précédent qui pourrait changer les itinéraires. Pour les organisateurs de voyages LGBTQ+, cette affaire pourrait modifier la façon de planifier les futures croisières. Il ne suffit plus d'évaluer les infrastructures portuaires ou l'intérêt touristique d'une destination. Il faudra désormais mesurer le risque politique lié à la présence d'un groupe ouvertement LGBTQ+. Le problème est d'autant plus complexe que ces croisières représentent une clientèle particulièrement rentable. Les voyageurs réservent des excursions, fréquentent les restaurants, achètent dans les commerces locaux et séjournent parfois plusieurs jours avant ou après la croisière. Les premiers pénalisés par ces refus pourraient donc être les guides touristiques, chauffeurs, commerçants et petites entreprises locales qui dépendent de cette clientèle. Plusieurs guides égyptiens, déjà engagés pour accueillir les passagers, ont perdu une importante journée de revenus lorsque l'escale a été annulée. Les compagnies devront-elles changer de stratégie ? Atlantis affirme ne pas vouloir rayer définitivement la Turquie ni l'Égypte de ses itinéraires. Avant d'y retourner, l'entreprise exigera toutefois des garanties officielles que ses passagers seront accueillis sans discrimination. Ils n'ont pas besoin d'installer un drapeau arc-en-ciel sur le quai, mais ils doivent nous assurer que nous sommes les bienvenus, considère Rich Campbell. D'autres transporteurs observeront sans doute attentivement la suite des événements. Même si plusieurs compagnies LGBTQ+ ont déjà navigué vers ces destinations sans difficulté, le précédent créé cet été pourrait inciter les organisateurs à privilégier des pays où les droits des personnes LGBTQ+ sont davantage protégés, réduisant ainsi leur exposition à des décisions politiques de dernière minute. Plus qu'un simple incident. L'affaire soulève également une question plus large. Les voyageurs LGBTQ+, devront-ils désormais intégrer les risques politiques à la préparation de leurs vacances, au même titre que les risques sanitaires ou géopolitiques ? Pendant des décennies, les grandes croisières gays ont été perçues comme des espaces de liberté permettant de découvrir le monde dans un environnement sécuritaire. L'épisode de la Méditerranée rappelle que cette sécurité ne dépend pas seulement de la compagnie de croisière, mais aussi de la volonté des États d'accueillir ou non des visiteurs LGBTQ+. Pour une industrie qui connaît une croissance constante depuis plus de 30 ans, ce précédent pourrait bien redéfinir la carte des destinations considérées comme accueillantes. Les prochaines saisons de croisière diront si la Turquie et l'Égypte demeurent des cas isolés ou les premiers signes d'un durcissement plus large envers le tourisme LGBTQ+. C'était « Les croisières LGBTQ+, devront-elles revoir leurs itinéraires ?» Un texte de Yves Lafontaine, paru le 14 juillet 2026 dans Fung.